Bonjour à tous et bienvenue sur Calade, au sommaire de notre journal local et régional. La difficile collaboration entre chasseurs et promeneurs, le sujet a fait l'objet d'un article pour le magazine animalier 30 millions d'amis en septembre dernier, joint par téléphone son auteur Jean-Philippe Noël, correspondant. Suivi d'un réseau de partenaires au service de la parentalité, avec Isabelle Vèvre, responsable du service Petite Enfance pour l'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône. Et en conclusion, aménagement du parc Simone Veil de l'écoquartier Montplaisir à Villefranche-sur-Saône, une sensibilisation des pépiniéristes qui ont partagé leurs connaissances avec les élèves de CE1 et CE2 du groupe scolaire Jean Massé. Avec nous également Evelyne Perronon, coordinatrice animatrice éducation développement durable pour la mairie de Villefranche-sur-Saône. Calade, le journal. Un choc, un tsunami, un avant et un après. Le vocabulaire employé par les parents d'enfants transgenres que le journal Le Monde a rencontré est sans équivoque lorsqu'ils apprennent la nouvelle, extrait d'un article de Solène Cordier pour le journal Le Monde. Selon la littérature scientifique, entre 0,1% et 2% de la population est concernée par la transidentité, le fait de ne pas se reconnaître ou partiellement dans le sexe assigné à la naissance. Bien souvent, l'adolescence et l'apparition des caractères sexuels secondaires sont un passage charnière, potentiellement générateur de souffrances pour les personnes transgenres. Changement de prénom, accès spécifique aux toilettes ou aux vestiaires, les élèves en transition viennent bousculer une institution. Article d'un extrait de Sylvie Le Charbonnier dans le journal Le Monde. Le personnel des collèges et des lycées voit régulièrement désormais des élèves en transition. Face à cette nouvelle génération, proviseurs et principaux au premier chef reçoivent ces dernières années des demandes jugées inédites dans une institution scolaire très normative et genrée. L'accompagnement médical d'affirmation de genre est encore vivement critiqué. Pourtant, condamner ces pratiques revient à négliger la souffrance des jeunes qui ne reçoivent aucun traitement. Il est du devoir des adultes d'accompagner le développement psycho-affectif de ces enfants, tiré d'un article d'un collectif pour Libération. Rappelons que ce n'est qu'en 1982, sous le premier gouvernement de gauche de la Ve République, que les personnes homosexuelles ont été mises sur un pied d'égalité avec le reste de la population, avec une majorité sexuelle à 15 ans et non plus 21. Aujourd'hui, ce sont les jeunes transgenres qui font encore l'objet de discrimination, selon une récente tribune. Les jeunes transgenres ne seraient que des jeunes en mal d'identité et en proie à toutes sortes d'angoisses. Les signataires s'inquiètent. Décalage entre sexe de naissance et genre vécu qui s'accroissent de manière exceptionnelle, l'accompagnement médical d'affirmation de genre est critiqué. La collaboration entre promeneurs et chasseurs urbains et ruraux n'est pas toujours facile dans les campagnes. Le sujet a fait l'objet d'un article pour le magazine animalier 30 millions d'amis en septembre dernier, joint par téléphone son auteur Jean-Philippe Noël, correspondant.
Puisque les chasseurs parlent, se présentent comme les premiers écologistes de France, se présentent comme les grands régulateurs de la faune, et c'est une communication qui passe plus ou moins bien, peut-être pas parmi nos lecteurs, mais en tout cas parmi la population française. Et c'est vrai que ce sont certaines de ces vérités que nous avons eu envie à 30 millions d'amis de dire et de dévoiler, en fait.
Alors, quels sont les mensonges ?
Ils sont de plusieurs ordres. Le grand mensonge, c'est de se présenter comme les premiers écologistes de France. Et pour cela, les chasseurs et la fédération a des moyens. Et particulièrement, je ne sais pas si vous aviez vu ou si nos éditeurs l'ont vu, c'est très, très beau clip hein, qui présente les chasseurs comme de grands protecteurs de la nature dans leur clip. Il n'y a pas une seule balle qui est tirée, mais il y a des oiseaux qui sont bagués, il y a des oiseaux qui sont relâchés, et on montre les chasseurs comme vraiment participant à la protection de la faune, et c'est comme cela, et c'est sur cette protection qu'ils se présentent, ce qui est évidemment complètement faux. Et la première de leurs grandes communications qui passe très bien auprès du public, c'est qu'ils sont les grands régulateurs de la faune, c'est-à-dire que toute la faune de France, toutes les espèces, auraient besoin d'être régulées, car elles seraient en trop grand nombre, en fait. Et ce qui est évidemment totalement faux, puisque sur l'ensemble des 90 espèces qui sont chassables en France, seules 3 ont actuellement des effectifs en hausse. Et évidemment, c'est le cas du sanglier qui est de plus en plus présent en France, mais sur l'ensemble du territoire européen, en fait.
Alors ça, c'est pour le côté mensonge, mais vous avez enquêté et il y a également, et vous dénoncez en tous les cas, des dérives.
On dénonce, c'est vraiment moi, hein, c'est évidemment, je le fais en donnant la parole à ceux qui dénoncent tout ça, mais c'est vrai qu'effectivement, l'une des grandes dérives, c'est l'élevage. La fédération, les chasseurs se présentent comme de grands grands protecteurs et disent qu'en fait, ils favorisent la biodiversité en relâchant chaque année entre 15 à 20 millions, hein, c'est pas petit, 15 à 20 millions de faisans, de canards et de perdrix principalement, qui seraient là pour repeupler en fait nos territoires. On peut se demander si véritablement il s'agissait de repeupler et de repermettre à ces animaux de reconquérir un territoire qui n'est pas d'ailleurs toujours leur territoire d'origine, pourquoi il serait nécessaire d'en relâcher autant. Et pourquoi il est nécessaire d'en relâcher autant ? Parce que les perdrix, les faisans ou les canards qu'ils relâchent, que eux-mêmes d'ailleurs nomment les cocottes, sont des animaux qui ont été élevés de manière totalement industrielle et qui du jour au lendemain sont relâchés dans la nature et qui sont donc totalement incapables de se défendre et souvent même pas de se reproduire. Donc en fait, cette façon de dire qu'ils repeupleraient notre nature est totalement faux. Et si la reproduction de ces espèces fonctionnait, ce ne serait pas la peine d'en relâcher autant chaque année.
Autre question qui suscite bien évidemment la réflexion, c'est celle des accidents. Et vous en parlez également.
Alors, c'est à la fois... Ça marque une véritable interrogation, surtout de la part de nos concitoyens. C'est-à-dire que les chasseurs ont raison lorsqu'ils disent qu'il y a de moins en moins d'accidents de chasse. C'est vrai que contre ces 20 dernières années, le nombre d'accidents de chasse a diminué. Je dis bien d'accidents, c'est-à-dire d'accidents où il y a des dommages humains, que ce soit la mort ou la blessure de la personne, qu'il s'agisse d'un chasseur ou d'un non-chasseur. Et pourtant, dans le même temps, cette peur du chasseur, cette crainte que l'on a de se promener en forêt et de prendre un coup de fusil, est grandissante chez toutes les personnes qui viennent se balader, qui se baladent à la campagne, qu'il s'agisse de ruraux, comme moi, ou d'urbains qui viennent passer quelques jours ou quelques semaines à la campagne. Donc il y a maintenant effectivement une peur. Alors, cette année, les chiffres viennent de tomber. Il y a eu 8 morts, ce qui est quand même beaucoup. Et c'est légèrement plus que l'année dernière, d'ailleurs. Mais ce qu'on constate aussi, en revanche, c'est que les incidents de chasse sont de plus en plus nombreux. Qu'est-ce qu'on appelle les incidents ? Eh bien, c'est tout ce qui ne concerne pas les cas où il y a des dommages corporels, c'est-à-dire les cas où il y a des prises de bec, je dirais du simple prise de bec entre chasseurs et non-chasseurs, qui sont de plus en plus fréquents, mais aussi des incidents comme aussi graves que de voir une balle traverser sa maison ou avoir des coups de fusil dans son jardin, voire sur ses animaux domestiques. Cela, en revanche, ces incidents-là sont en hausse permanente parce qu'il y a actuellement une tension qu'il n'y avait pas avant.
C'était Jean-Philippe Noël, correspondant au magazine 30 millions d'amis. Un réseau de partenaires au service de la parentalité. Le Jardin Papillon est un espace d'accueil, d'échange, de paroles et de jeux, ouvert aux enfants jusqu'à 4 ans, accompagnés d'un parent ou d'un adulte. Isabelle Vèvre, responsable du service Petite Enfance pour l'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône.
Pour laquelle nous gérons en gestion directe 9 établissements d'accueil du jeune enfant, 2 relais Petite Enfance itinérants. Et donc nous sommes partenaires, mais aussi porteurs financiers du Jardin Papillon, du lieu d'accueil parents-enfants. Donc les objectifs de ce lieu, c'est de permettre aux familles de venir librement passer un temps avec leur enfant, rencontrer d'autres adultes, mais aussi des professionnels qui sont orientés plus sur la petite enfance, mais qui sont là en fonction d'accueillants, donc pour guider les familles s'ils ont des questions, mais ils ne sont pas là avec leur casquette de professionnels sur lesquels ils travaillent habituellement. Ils sont mis à disposition par leurs différents organismes. Donc les partenaires actuellement, donc, nous avons la Givre, l'hôpital Saint-Cyr, l'association caladoise L'île aux enfants, la communauté d'agglomération et le département.
Alors, quel est leur rôle plus particulièrement ?
Alors, en fait, c'est une volonté d'être sur le territoire en réseau pour permettre l'ouverture de ce lieu. Et donc, ces différents partenaires mettent à disposition des agents, en tout cas pour être accueillants sur le lieu d'accueil.
Les accueils au Jardin Papillon ont lieu uniquement les mardis et jeudis de 14h30 à 18h au 584 rue Danse à Villefranche-sur-Saône actuellement. Des changements d'horaire pour 2023. Les temps d'accueil seront les mardis de 8h30 à 12h et les jeudis de 14h30 à 18h, gratuits et sans rendez-vous. Aménagement du parc Simone Veil de l'éco-quartier Montplaisir à Villefranche-sur-Saône. L'aménagement espace vert du quartier Montplaisir fait l'objet d'une sensibilisation auprès des écoliers du quartier. Les pépiniéristes ont partagé leurs connaissances avec les élèves de CE1 et CE2 du groupe scolaire Jean Massé. Les explications avec Patrick Argou de l'entreprise Parc et Sport, chef de chantier, suivi d'Evelyne Béronon, coordinatrice animatrice éducation développement durable à la mairie de Villefranche-sur-Saône.
Patrick Argou l'entreprise Parc et Sport. Et ma fonction ici, c'est je suis chef de chantier de l'entreprise Parc et Sport qui réalise l'aménagement du parc en espace vert, donc en plantation d'arbres et également tout ce qui est mobilier urbain, jeux pour les enfants, enfin tout ce que vous allez voir dans le futur parc. Voilà.
Expliquez-nous un petit peu aujourd'hui, parce que c'est une opération de sensibilisation en quelque sorte aux enfants sur les espèces naturelles et notamment plus généralement du parc, hein, si j'ai bien compris.
Déjà, j'explique à ces enfants le type d'arbres que nous plantons. J'explique un petit peu le projet, l'ensemble,
dans sa globalité
du parc, en expliquant un peu plus précisément à chaque arbre planté ses origines et puis un peu le type d'arbre qu'il s'agit.
Alors, comment a été pensé le parc? Qu'est-ce qu'on va y mettre? Quelles sont les espèces que l'on a fait venir ou pas?
Donc, en fait, l'architecte paysagiste, donc lui, il a conçu, il a choisi les espèces, les essences d'arbres et les végétaux dans ce parc, avec un souci de maintenant, avec le réchauffement climatique et puis des problèmes qui sont liés à tout ça, donc le transport et tout. Donc, il a pris trois pépinières locales, donc qui sont les pépinières soupes, les pépinières Moreau et la pépinière Chola, qui est un petit peu plus loin, mais qui a une antenne autour de Villefranche. Donc des essences d'arbres qui sont adaptées au réchauffement climatique et avec une grosse diversité. Je crois qu'il y a une trentaine d'essences, d'espèces d'arbres.
Là, vous leur avez parlé plus particulièrement de cet arbre-là.
Voilà, donc on vient de planter un Peropsia persica. Donc voilà, c'est un arbre qui est originaire d'Asie, mais bon, il est cultivé depuis des siècles chez nous. Voilà, donc j'ai expliqué aux enfants que son nom plus commun était, on l'appelait arbre de fer, parce qu'en référence à la dureté de son bois, voilà. Et puis je lui ai expliqué que c'était un arbre qui était en CP, qui avait trois troncs qui partaient du sol, et qu'il avait été cultivé donc dans une pépinière pas très loin d'ici. Voilà.
Et quelles sont les réactions des enfants?
Ah ils sont très à l'écoute. Ils sont très attentifs et puis on les sent un peu très intéressés et passionnés, quoi. Ça leur plaît, ça a l'air de leur... Oui, je pense que ça plaît beaucoup, ce genre d'opération.
Suivi d'Evelyne Béronon, coordinatrice animatrice éducation développement durable à la mairie de Villefranche-sur-Saône.
Oui, là c'est dans le cadre du projet de l'écoquartier de l'aménagement du parc Simone Veil. Donc la ville a souhaité associer les habitants et les usagers à proximité et entre autres les écoles. Donc là, l'école Jean Massé a été partenaire et complètement impliquée, puisque toutes les classes de l'école ont souhaité s'investir sur ce projet. L'idée, c'était de les associer à la plantation des arbres, de rencontrer le paysagiste et de pouvoir voir comment concrètement on plante un arbre, ce qui fait partie du programme scolaire. Les enfants ont pu participer à la plantation des arbres, mais aussi à la décoration des planches qui servent de tuteurs pour ces arbres. Donc il y a 180 planches qui ont été décorées par les enfants. Chaque classe avec sa propre thématique, mais toujours autour de la nature, du développement durable, du vivant. Voilà. Après, c'est vrai que l'idée, c'est de sensibiliser le public qui est autour pour qu'il y ait du respect sur cet espace, que les enfants puissent investir, les familles puissent investir cet espace qui prend forme et qui devrait ouvrir à l'été prochain.
Ouverture des espaces verts de l'écoquartier Montplaisir à Villefranche-sur-Saône l'été prochain. Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Quelade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Quelade.